Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Comme d'habitude, on va ensemble interviewer une personne qui est engagée politiquement, sociétalement. On va essayer de parler de tout ça ensemble. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Pierre Dornier, qui est, comment on va te définir, le CEO de l'organisation de l'ONG, de l'ASBL, les chercheurs d'air, c'est comme ça qu'on dirait ?
Oui, bonjour, je suis le fondateur et le directeur de l'ASBL, donc l'association Les Chercheurs d'air.
Et si tu pouvais définir en quelques phrases les principes, les valeurs fondamentales de Les Chercheurs d'air?
Alors, l'objectif, la mission des chercheurs d'air, c'est d'améliorer la qualité de l'air à Bruxelles, pour tout le monde.
Alors déjà, c'est étonnant parce que quand j'ai lu cette phrase, je m'étais jamais même posé la question de la qualité de l'air. C'est quelque chose qui littéralement nous entoure non-stop et auquel on ne pense pas forcément parce que je ne sais pas si c'est parce que l'air est transparent ou parce que c'est très abstrait. Malgré que ce soit quelque chose qui ait des conséquences très concrètes, la situation est telle qu'elle paraît très abstraite. Comment, toi, est venu cet intérêt, en fait, pour la pollution de l'air ?
Je pense déjà, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai, c'est abstrait, c'est transparent, c'est invisible, on ne voit pas l'air. Pourtant, c'est l'élément qui est le plus important à notre vie. Il y a ce qu'on appelle la règle de 3. On estime qu'on peut vivre 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire et seulement 3 minutes sans respirer. Donc on respire vraiment en permanence, hein, on a vraiment besoin tout le temps d'air. Donc la raison pour laquelle j'ai fondé cette ASBL en 2019, c'est parce que l'air est donc vital, comme je viens de l'expliquer, et pourtant, on n'a quasiment pas d'informations sur la qualité de l'air qu'on respire. Si on va au supermarché acheter une bouteille d'eau, on va avoir des informations sur la composition de l'eau. Si on va acheter un paquet de biscuits, on va avoir les ingrédients qui composent les biscuits. L'air, on n'a pas d'informations. Et quand on essaye de trouver l'information, ça reste très difficile. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, il faut qu'on crée un groupe, un mouvement pour informer les citoyennes et les citoyens de la qualité de l'air qu'ils et elles respirent.
Et toi, personnellement, dans ton parcours, comment est venu cet intérêt ?
Alors, l'élément déclencheur, ça a été ce qu'on appelle le Dieselgate, le scandale du Dieselgate. Donc, pour rappel, en fin 2015, si je me souviens bien, c'était en septembre 2015, on se rend compte que certaines marques de voitures, et puis ensuite on se rend compte que toutes les marques de voitures, émettent beaucoup plus de polluants que ce qui est annoncé sur la brochure. Et donc, que l'air qu'on respire est beaucoup plus pollué que ce qu'on pense. Et à partir de ce moment-là, à nouveau, je me suis dit, mais ok, qu'est-ce que moi-même je respire ? J'ai cherché un petit peu sur Internet et j'ai trouvé très peu d'informations. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose à ce niveau-là, quoi.
Donc, le but principal à la base, c'était vraiment d'informer la population sur les dangers de la pollution de l'air.
Alors d'abord, c'était beaucoup plus modeste que ça. C'était simplement, entre guillemets, informer sur la qualité de l'air qu'on respire. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas non plus beaucoup d'informations sur ce que tu viens de dire, les dangers liés à la mauvaise qualité de l'air qu'on respire. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas non plus énormément d'informations sur les causes de la pollution de l'air, sur les composants, sur ne serait-ce que qu'est-ce que la pollution de l'air aussi, vraiment la base. Et donc, on a petit à petit développer notre message et en lien avec ça développer notre plaidoyer pour améliorer, pour mieux comprendre ce qu'est la pollution de l'air et pour améliorer la qualité de l'air à Bruxelles.
J'ai l'impression d'un point de vue extérieur que expliquer la pollution de l'air, ça paraît très compliqué, ça ressemble un peu à expliquer à l'époque comment les activités humaines étaient directement reliées au changement climatique. Ça paraît très abstrait et en même temps, comme tu le dis toi-même, il y a très peu d'études qui vraiment ont pu appuyer votre propos. Comment alors on arrive à créer sa propre revue de la littérature ?
Alors maintenant, il commence quand même à y avoir beaucoup d'études sur le sujet. Je pense que à nouveau, ce scandale du Dieselgate a été vraiment une étincelle, a déclenché des réactions, mais donc aussi beaucoup de recherches. Je pense que en tout cas, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on accorde du temps à ce sujet-là. Je crois que c'est quelque chose qui avait pas assez avant, on n'accordait pas assez d'importance et donc de temps à cette thématique. On le fait et donc on crée des messages qui sont pas simplistes mais simples à comprendre. Entre autres, pour les enfants, on va par exemple dans les écoles faire des animations pour expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est la pollution de l'air, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire pour la combattre. Et je crois que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Si on enlève un petit peu les acronymes et le jargon qui peuvent assez facilement être supprimés, c'est pas si compliqué que ça.
Sur le site internet, quand on regarde un peu, il est marqué que vous vous êtes lancé dans la science citoyenne. Je veux savoir qu'est-ce que c'était cette science citoyenne.
Ouais. Alors la science citoyenne, on appelle ça aussi la science collaborative, c'est quand on propose à des citoyennes et à des citoyens, donc monsieur et madame lambda, de participer à une étude scientifique. Et pour arriver à faire ça, on prémâche un petit peu le travail en proposant un protocole scientifique aux personnes qui sont intéressées. Donc en l'occurrence, pour la qualité de l'air, on va leur dire... on va leur donner déjà les moyens de mesurer la qualité de l'air, on va leur donner des petits appareils, on va leur expliquer comment les installer, quand les installer, où les installer, et puis ensuite ça va être ces personnes qui vont se charger de mettre en place les appareils et donc de faire, d'un point de vue très pratique, de faire l'expérience. Ensuite on va récolter les résultats et puis les résultats vont être analysés là par contre par des personnes qui sont expertes, par des scientifiques. Mais donc il y a toute une grosse partie entre la production de l'appareil de mesure et puis l'analyse des données qui est faite par des citoyennes et des citoyens.
Je ne m'attendais justement pas à cette réponse parce que quand j'avais entendu le mot science citoyenne, j'avais vraiment cette impression que c'était les personnes à peu près lambda qui faisaient même de la recherche pure. Mais en fait, c'est plutôt la partie avant qui est juste une récolte de données.
Oui, c'est ça. Donc, ils participent à créer les données. Et ce qui est très important, très, très intéressant pour nous, c'est que ça permet de sensibiliser les personnes qui participent et les personnes qui vont entendre parler de l'étude par le bouche à oreille. Parce que très souvent, quand il y a une étude qui est faite par des scientifiques, on a tous été dans cette situation, ça a l'air intéressant, le titre est un peu accrocheur, mais au bout de la deuxième page, on ne comprend plus rien parce qu'on n'y a pas participé et voilà. Donc là, l'intérêt, c'est que les personnes participent à l'étude, à l'analyse. Ici, on parle de la pollution de l'air, mais la science collaborative peut être utilisée dans plein d'autres domaines. Et en participant à cette analyse, à cette étude, comprennent beaucoup mieux les tenants et les aboutissants de la thématique.
Après que vous ayez récolté ces données, vous les donnez donc à des académiciens. Qu'est-ce que vous faites après avec ces études-là ?
Alors ensuite, on publie les résultats et on montre, alors c'était en tout cas l'objectif de notre dernière grande campagne de sciences collaboratives qui a eu lieu de 2020 à 2021. Elle nous a servi à montrer que dans certains lieux bruxellois, il y avait un réel grave problème de pollution de l'air. On a fait par exemple des mesures dans 70 écoles, avec les écoles, avec les enfants, les enseignants, avec les communes. Et on a vu que, alors non seulement il n'y a aucune école qui ne respecte la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, elles sont toutes au-dessus de cette recommandation, et il y a certaines écoles qui sont trois fois au-dessus de la recommandation. Et on n'a pas fait des analyses dans toutes les écoles. Je ne serais pas surpris que dans certaines écoles, ce soit même plus que trois fois au-dessus. Donc à nouveau, ça permet de sensibiliser les populations, les enfants, les parents, les enseignants, les enseignantes, etc., à la problématique de la pollution de l'air. Et ce faisant, d'expliquer qu'il y a des solutions, que ces solutions, elles sont pas si compliquées que ça à mettre en place et qu'il faut rapidement les mettre en place, sinon on a des gros problèmes de santé publique derrière.
Je me permets, parce que je pense que c'est mon rôle en tant qu'intervieweur, de demander comment est-ce que vous pouvez garantir l'objectivité des académiciens à qui vous donnez les récoltes de données, mais aussi vous donnez quasi, pas une mission, mais il y a quelque chose que vous attendez derrière, qui est donc des résultats probants et des résultats qui vont appuyer votre avis et ce que vous voulez défendre. Comment est-ce que vous pouvez garantir l'objectivité des académiciens qui vont produire des études qui vont appuyer votre propos ?
Alors là, en l'occurrence, ce n'était pas des académiciens, pardon, c'est un laboratoire d'analyse auquel on envoie ces espèces de petits tubes en plastique qui fonctionnent un petit peu comme des éponges. Ils absorbent l'air pendant un mois et puis les scientifiques ensuite analysent, je simplifie un petit peu, l'éponge qui est à l'intérieur des tubes. Le laboratoire n'a strictement aucun intérêt à ce que les résultats soient positifs ou négatifs ou rouges ou verts ou que sais-je. Ils analysent les tubes, ils nous donnent les résultats et voilà, leur contrat est rempli. Donc, je pense qu'on, et d'ailleurs, on n'a pas été accusé de quoi que ce soit une fois qu'on a publié les résultats, même s'il y a des groupes de personnes ou des partis qui sont opposés de manière générale à nos demandes. Sur cette campagne-là en particulier, on n'a pas eu de critique puisque c'était voilà, scientifique, enfin, c'était de l'analyse pure. Quoi.
Ouais, je pense que ça vaut la peine quand même de rappuyer le côté de transparence et honnêteté.
Ouais.
Après que vous ayez ces résultats, tu l'as dit donc toi-même, plus de 70 écoles ont dépassé une certaine limite qui n'est pas acceptable. Et puis quand on a ça, quand on a ce résultat-là, quand on a cette conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors nous, ce qu'on fait, on a un travail de, on effectue un travail, ce qu'on appelle de plaidoyer, c'est-à-dire qu'on va voir, en anglais on dit lobby, c'est-à-dire qu'on va voir les élus, quel que soit leur bord politique, quelles que soient les relations qu'on a avec, on va voir les élus et on leur dit, voilà, ici on a un problème, il y a des enfants dont la santé est en danger à cause de la mauvaise pollution, à cause de la mauvaise qualité de l'air, voici les solutions qui sont disponibles au jour d'aujourd'hui. On vous demande de mettre en place ces mesures, d'activer ces solutions le plus rapidement possible pour que la santé des enfants et des riverains, etc., soit protégée au mieux le plus rapidement possible.
Et c'est là aussi où j'ai entendu que vous aviez, j'essaie de retrouver exactement le bon mot, que vous avez donc établi les rues scolaires. Qu'est-ce que c'est une rue scolaire ?
Alors, on n'a pas établi hein, les rues scolaires. C'est un terme qui existait avant nous. On ne l'a pas inventé, qui existe aussi ailleurs en Europe. Une rue scolaire, c'est une rue qui passe devant une école et qui est fermée au trafic routier. Alors, c'est là où ça, les avis divergent un petit peu, qui est fermée au trafic routier, soit de manière temporaire, ce qui est le cas quasiment tout le temps à Bruxelles, donc le matin au moment de l'entrée des classes et ou le soir au moment ou l'après-midi au moment de la sortie des classes. Donc ça, c'est une première option. Et la deuxième option, c'est toujours pareil, une rue qui passe devant une école, mais cette fois-ci qui est fermée de manière permanente à la circulation routière. Nous, on préfère la deuxième option, la rue qui est fermée de manière permanente à la circulation routière. Aujourd'hui, à Bruxelles, en région bruxelloise, il y a seulement 3 rues qui sont fermés de manière permanente à la circulation routière sur plus de 500 écoles. Et donc, on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus que ça.
Donc, il y a un réel changement lorsque vous enlevez les voitures de la rue scolaire ?
Oui, alors ça, c'est vraiment mathématique. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde, il y a plusieurs polluants. Le polluant qui s'appelle le dioxyde d'azote est émis très principalement par le trafic routier. Donc, quand on enlève des voitures, des camions, des motos, etc., de la rue, pas scientifiquement, mathématiquement, il y a une baisse du dioxyde d'azote. Donc oui, quand on ferme une rue au trafic routier, on a une meilleure qualité de l'air. Et il y a, pour appuyer ce que je viens de dire, il y a des analyses qui ont été faites à Londres et qui montrent que pendant les 30 minutes à peu près de fermeture de la rue scolaire, on a une diminution de plus de 20% des concentrations en dioxyde d'azote. Donc c'est beaucoup. Hein. Il y a vraiment une diminution significative.
Je trouve ça intéressant parce que tout ce que tu me dis là, ça paraît tout à fait logique et ça répond très bien à toutes les mesures, à toutes les dernières régulations qu'on voit d'un point de vue européen, mais même un peu moins national, mais surtout d'un point de vue européen, autour du pacte vert, autour de toutes ces régulations qui paraissent vraiment aller dans ton sens. Et pourtant, j'ai quand même l'impression que les chercheurs d'air ont parfois difficile à pouvoir faire avancer leur cause d'un point de vue légal, d'un point de vue advocacy, d'un point de vue plaidoyer, comme ce que tu disais là. Est-ce que tu aurais peut-être, toi, des hypothèses, d'explications de pourquoi ça prend autant de temps d'arriver à mettre en place des choses qui paraissent, à mettre en place des infrastructures qui vont justement faire baisser la pollution de l'air, qui paraît clairement logique, qui paraît naturel et qui en plus est en adéquation avec les régulations d'un point de vue européen. Pourquoi ça met autant de temps et pourquoi vous avez autant de barrières, à ton avis ?
Mais je pense qu'il y a deux barrières principalement. La première, c'est le lobby automobile qui reste extrêmement puissant en Europe et entre autres en Belgique.
Tu as pu le voir dans tes yeux, cette influence des entreprises automobiles ?
Oui, tout le monde le voit de ses yeux tous les jours, en levant un petit peu la tête et en voyant les énormes publicités pour les voitures. C'est qu'un exemple, mais c'est vraiment énormément d'argent qui est investi dans la communication, dans le lobby traditionnel, c'est-à-dire aller voir les élus dans leur bureau et leur expliquer qu'il faut absolument garder des voitures parce que sinon on aura moins d'emplois, etc. Donc je pense qu'une raison principale, c'est ce lobby automobile. Et la deuxième raison, c'est la difficulté de changer les habitudes de vie et donc entre autres de déplacement des Bruxelloises et des Bruxellois, mais c'est exactement la même chose dans les autres grandes villes. Quand on est habitué à utiliser sa voiture pour aller au travail, pour aller emmener les enfants au stage de sport à l'autre bout de la ville, et voilà, que sais-je, et que un petit peu du jour au lendemain, on dit ben non, maintenant c'est plus possible. Voilà, on n'a pas envie de, on n'a pas envie de changer ses habitudes, ce que je peux comprendre. Mais c'est vraiment ça qu'il faut, c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut changer, évoluer, faire évoluer les comportements pour utiliser beaucoup plus les transports en commun, le vélo, la marche. La marche permet très souvent, en fait, de se déplacer sur les distances sur lesquelles on a besoin de se déplacer.
Et tout ce que tu me dis là, j'ai l'impression que ça paraît assez naturel comme changement. Le vélo existe, il y a plein d'autres alternatives qui existent. Est-ce que toi, tu considères les principes de les chercheurs d'air comme quelque chose de radical ?
Non, pas du tout. Je pense pas du tout qu'on soit radical. Une grande partie des mesures qu'on demande existent déjà dans d'autres villes européennes qui sont pas du tout radicales. Mais à nouveau, il faut pas le changement de comportement, c'est ce qu'il y a de plus difficile quand on essaye de réaménager une ville ou de changer une politique. Donc même si c'est pas radical, ça peut rester compliqué. Et donc c'est pour ça que il faut de l'ambition politique. Et je pense que malheureusement, à certains échelons, à Bruxelles, il y en a. Mais assez souvent, je pense qu'on en manque quand même encore beaucoup. Et donc ça prend du temps.
C'est intéressant, là tu parles d'ambition politique. Bruxelles n'est pas la seule ville avec un taux de pollution de l'air très important. Je pense qu'on est dans le top, clairement en Europe. Est-ce que tu as des contacts avec d'autres organisations qui font à peu près les mêmes missions que vous, les mêmes principes que vous dans d'autres pays européens ? Est-ce que vous comptez collaborer ? Parce qu'en vrai, la pollution de l'air, c'est quelque chose de global. C'est un problème qui touche tout le monde au-delà des frontières juste bruxelloises. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres et est-ce que vous collaborez avec ?
Ouais, alors juste pour par rapport à ce que tu disais, le niveau de pollution à Bruxelles. Bruxelles, c'est la 8e ville européenne la plus polluée au dioxyde d'azote. Donc ce polluant dont je parlais tout à l'heure, qui est principalement émis par les voitures. Donc en effet, on est très mal placé. Oui, on collabore de manière régulière avec d'autres associations similaires à la nôtre en Europe, en France, en Italie, en Allemagne, et on essaye d'échanger des idées, des bonnes pratiques, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'une ville en particulier aurait mis en place qu'on pourrait et on pourrait demander la même chose par exemple à Bruxelles. Pour l'exemple des rues scolaires par exemple, on s'inspire beaucoup de Paris qui a mis déjà en place beaucoup plus de rues scolaires qu'à Bruxelles, et des rues scolaires pour certaines qui sont vraiment très ambitieuses, c'est-à-dire qui sont piétonnes, donc fermées, complètement fermées à la circulation en permanence, et qui en plus sont végétalisées, c'est-à-dire qu'on va débitumer une partie de la rue et y planter des arbres ou des plantes. Ça, à Bruxelles, on en est encore très très loin.
On a donc un effort qui est fait, en tout cas c'est ce que tu dis par exemple à Paris, on a un effort de vouloir essayer d'un peu rendre plus vert la ville, essayer de rendre plus respirable l'air. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a toujours pas dit quelles étaient les conséquences du dioxyde d'azote sur la santé des citoyens et des citoyennes. Quelles sont ces conséquences, en fait ?
Ouais. Alors, il y a deux polluants quand on parle de la pollution de l'air en ville. Il y a le dioxyde d'azote, donc qui est un gaz émis principalement par le trafic routier. Et puis, il y a ce qu'on appelle les particules fines. Les particules fines, c'est un petit peu comme de la poussière, mais vraiment très, très fine, qui est émise en partie par le trafic routier, mais également par d'autres secteurs comme l'industrie et l'agriculture. Ces deux polluants sont dangereux pour la santé parce qu'ils occasionnent des problèmes de santé qui vont, alors pour les moins graves, ça va être des gènes respiratoires, une toux, un rhume. Et pour les plus graves, ça va être de l'asthme, des cancers, des maladies cardiovasculaires. Donc ça peut, la pollution de l'air peut tuer. Je pense que c'est vraiment important de le rappeler. On meurt des cancers, on meurt des problèmes cardiovasculaires, on peut mourir d'une crise d'asthme. Donc c'est vraiment important de lutter contre ce fléau, je pense qu'on peut le dire, c'est un fléau. Aujourd'hui, à Bruxelles, on estime qu'il y a un petit peu plus de 900 personnes chaque année qui meurent à cause de la pollution de l'air.
Est-ce que tu as ressenti des très grosses différences de taux de pollution de l'air entre les différentes communes bruxelloises ?
Alors, ça, on n'a pas regardé. Je ne suis pas certain que ça soit nécessairement en tout cas, que ça fasse partie de nos objectifs de montrer du doigt une commune plus qu'une autre. Je pense qu'il faut vraiment
C'est un effort global et ouais, toute la ville doit changer. Mais je me disais que c'était peut-être intéressant de se dire que cette commune-là avait plus de voitures ou plus de travaux ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et donc, on peut pointer du doigt une cause qui est déjà un peu plus particulière, un peu plus précise, parce qu'on a pu faire des différenciations de communes. C'est pour ça que je me posais la question. Mais vous n'avez pas fait ça, alors ?
Non, on n'a pas fait ça. De manière générale, à nouveau, si on prend le polluant dioxyde d'azote, on sait qu'il est fort lié au trafic routier. Donc, une commune qui est qui a pas trop d'infrastructures routières, a priori, elle sera plutôt épargnée. Une commune où il y a beaucoup de rues, mais surtout de grosses routes avec beaucoup de trafic, ou de grosses rues, des boulevards, a priori, elle sera plus touchée par la pollution de l'air.
Je trouverais ça intéressant de comprendre, parce que là, on a bien compris que les chercheurs d'air a commencé avec le Dieselgate, et la plupart, ce que tu disais, en tout cas, la plupart des études et des efforts sur pointer du doigt la pollution de l'air viennent de ce Dieselgate, donc en 2015. Est-ce que toi, personnellement, toi qui suis, qui es dans ce combat depuis plus de 8 ans, est-ce que tu as pu remarquer des changements et une évolution entre des progrès ou au contraire plutôt quelque chose de descendant entre 2015 et maintenant ?
Oui, je pense que le premier changement, c'est qu'on parle beaucoup plus de la pollution de l'air aujourd'hui qu'on en parlait avant le Dieselgate. En tout cas, à nouveau, la pollution de l'air liée au trafic routier. Donc ça, je crois que c'est déjà un grand pas en avant.
Et pourquoi ?
Et justement, à cause de ce scandale qui a tellement fait parler.
Pourquoi c'est important d'en parler dans les médias, d'en parler partout ?
Parce que quand on est au courant d'un problème, on a plus de chances, on va être plus tenté, encouragé de changer son comportement. Quand on a commencé à parler, par exemple, à parler plus du réchauffement, du changement climatique, et du rôle que jouait le transport aérien, qui est encore à ses débuts, hein, le transport aérien, ça fait pas longtemps que ça existe, dans ce changement climatique, on a eu des gens qui ont commencé à dire « bon, moi, dans ce cas-là, je prends plus l'avion ». Pareil avec la consommation de viande, pareil. Donc, la première étape, c'est toujours d'être au courant de l'existence d'un problème. Donc ça a été, je pense, accéléré grâce, si je peux dire, au scandale du Dieselgate. Et donc, à partir de là, on a vu d'autres changements se passer. De manière générale, quand même, une diminution de la place ou de la prépondérance de la voiture en ville et une accélération, alors qui est encore faible et qu'il faut augmenter beaucoup plus, hein, mais quand même une accélération de la mobilité partagée, donc les transports en commun par exemple, et de la mobilité qu'on appelle active, donc la marche à pied et le vélo. Pour la marche à pied et le vélo, ça a été aussi accéléré par la pandémie de Covid-19. parce que pour respecter les distanciations sociales, il fallait plus de place et donc on a créé des pistes cyclables. Par contre, les transports en commun ont été beaucoup moins utilisés parce que y avait trop de monde dedans et on avait peur que le virus se propage comme ça, quoi.
Et est-ce que toi, personnellement, avec l'organisation que tu représentes, est-ce que tu as remarqué des changements, par exemple, d'accueil de messages ou d'accueil de mails entre 2015 et maintenant ?
Je sais, c'est peut-être un petit peu encore court pour pouvoir juger, mais ce qui est sûr, c'est que on est écouté, on nous demande notre avis assez régulièrement sur ces questions-là, et nos demandes sont de manière générale plutôt bien reçues. Après, voilà, on va nous dire ça c'est pas possible pour telle raison, ou alors il faut plus de temps, mais oui, je pense que c'est quand même de manière générale reçu de manière constructive, on va dire, voilà.
Tu dis toi-même qu'on en parle de plus en plus de la pollution de l'air. Est-ce que alors les citoyens et citoyennes, comment est-ce qu'elles réagissent quand vous allez voir les enfants, comment ils réagissent lors de vos animations, lorsque vous parlez de ce problème ?
Alors ça dépend malheureusement beaucoup des écoles dans lesquelles on va, et c'est là qu'on voit que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, et toutes les populations, tous les quartiers n'ont pas accès aux mêmes informations. Dans les écoles qui sont situées dans des quartiers plutôt favorisés, les enfants connaissent déjà beaucoup de choses sur la pollution de l'air, et c'est des thématiques qui les intéressent. Quand on leur demande quelles sont les solutions, assez rapidement, ils disent il faudrait un petit peu moins de voitures, un petit peu plus de vélos. Par contre, dans les écoles qui sont situées dans des quartiers plus défavorisés, on n'a pas les mêmes retours. C'est-à-dire que c'est pas du tout que les enfants s'en fichent de la pollution ou sont contre la mobilité active, par exemple. C'est simplement qu'ils ne sont pas au courant de ces questions-là. Et donc, c'est d'autant plus important de faire ces animations avec elles et avec eux pour les informer de ces problématiques.
À quoi ressemble une animation dans une école de les chercheurs d'air ?
Alors, en général, ça dure une heure. On prend notre temps pour expliquer aux enfants d'abord qu'est-ce que c'est la pollution de l'air, qu'est-ce que c'est la pollution de manière générale, qu'est-ce que c'est la pollution de l'air de manière un petit peu plus spécifique, d'où ça vient. Quels sont les problèmes pour la santé, particulièrement la santé des enfants, puisque les enfants, étant donné que leur corps est encore en train de se construire, sont particulièrement vulnérables à la pollution de l'air. Et puis, enfin, quelles sont les solutions pour essayer au maximum de limiter la pollution, alors que ce soit des mesures prises par les élus, donc un changement de plan de circulation, de couper une rue au trafic routier, voilà, ce genre de choses un peu plus compliquées, mais aussi le changement de comportement des citoyennes et des citoyens, donc entre autres des enfants, pour essayer de limiter l'impact sur la qualité de l'air.
Cette thématique de la pollution de l'air, elle a quand même un lien très fort, je trouve, avec l'écologie, avec le changement climatique, avec la crise climatique. J'ai pu étudier ça de manière un peu plus précise durant mon mémoire, durant mes études, et il y a plusieurs manières de pouvoir aborder ce problème-là. Et l'un des problèmes que je trouvais assez intéressant, c'est plutôt un point de vue assez apocalyptique, quelque chose où on décrit en fait un peu la fin du monde qui est précoce. Comment est-ce que vous abordez votre discours lorsque vous êtes dans les écoles ou lorsque vous parlez à des décideurs et décideuses politiques? Est-ce que vous prenez plutôt un ton urgent et apocalyptique, ou est-ce que vous allez plutôt avoir quelque chose qui ressemble à du solutionnisme, pas dans le sens insultant, mais dans le sens vraiment de pragmatisme? Comment est-ce que vous abordez ce discours lorsque vous vous retrouvez face à des personnes qui ne sont pas sensibles, à première vue, à la pollution de l'air?
Alors, sur la question de la temporalité, il y a une urgence, c'est évident, parce qu'à nouveau, il y a des personnes qui meurent de la pollution de l'air. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mentionne. Après, on essaye au maximum, et je pense qu'on l'est, d'être constructif, c'est-à-dire de proposer des solutions qui, encore une fois, existent et qui sont à portée de main. Les rues scolaires, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place, en tout cas devant certaines écoles. Créer plus de pistes cyclables, il y a un certain nombre de mesures qui permettent d'améliorer la qualité de l'air rapidement. Et donc, on met ça en avant fortement. Ouais.
Comment est-ce que toi, tu as créé Les Chercheurs d'air? Et est-ce que tu as rencontré des obstacles durant cette création?
Non, c'était assez basique, hein, la création d'une ASBL. Étant donné que c'est un sujet qui est quand même qui intéresse quand même un grand nombre de personnes, c'est pas trop difficile d'avoir des financements pour faire les activités qu'on fait. À nouveau, il n'y a pas de grosse opposition. Il y a certains groupes qui voilà qui sont en face de nous pour des raisons X ou Y, mais il n'y a pas de gros blocages, de gros problèmes. Je pense que la principale difficulté qu'on a eue, donc j'ai fondé l'ASBL en 2019. La principale difficulté, c'était le confinement mais comme pour tout le monde quoi. C'était pas propre à notre ASBL.
Qu'est-ce qu'il y avait avant l'ASBL? Tu disais toi-même que ton intérêt s'est développé en 2015. Entre 2015 et 2019, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc l'ASBL n'existait pas, mais moi je travaillais pour une autre organisation environnementale aussi sur la qualité de l'air. Et voilà, mais là, c'était au niveau européen.
Ok, et donc là, après, tu t'es dit que tu voulais te lancer, enfin oui, c'est ça, en indépendant, pour après lancer ta propre ASBL alors?
Moi, ce que je voulais, c'était surtout améliorer la qualité de l'air dans la ville dans laquelle je vis, quoi.
Tu cherchais quelque chose de concret?
C'est ça, ouais.
Pourquoi avant, ça paraissait plus abstrait?
Je pense que j'avais besoin d'un temps d'analyse et de compréhension, parce qu'à nouveau, je connaissais quasiment rien à la pollution de l'air, je trouvais pas beaucoup d'informations. Donc je pense que les années précédentes correspondent à des années d'apprentissage, en fait, un petit peu, même si je continue évidemment à apprendre beaucoup maintenant. Et une fois que je me suis senti assez... moi et d'autres, hein, j'ai pas fait tout ça tout seul, assez solide, je sais pas comment dire, pour monter mon ASBL, alors c'est ce que j'ai fait.
Tu as cherché une sorte de légitimité dans ces informations et dans cette recherche de réponses à des questions?
Oui, légitimité, puis à nouveau vraiment juste pour moi de comprendre en fait ce dont je parlais, de cerner les problèmes, de trouver les solutions potentielles. Et pour avoir une position qui puisse être solide à nouveau.
Donc tu dis que ça fait maintenant 4 ans que tu as développé cette ASBL, que vous développez plein de campagnes différentes. Est-ce que tu as pu ressentir au fil de ces années certains efforts, certains discours ou certaines initiatives qui ont en fait plus de succès ou on va dire plus d'impact pour pouvoir convaincre les gens autour? Est-ce que tu as pu ressentir ça et lesquelles sont-elles?
Mais oui, il y a toujours des solutions qui plaisent plus ou qui attirent plus. Les rues scolaires, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien de manière générale. Alors, je ne dis pas que ça se concrétise bien. À nouveau, il manque encore vraiment beaucoup de rues scolaires à Bruxelles. Mais c'est un sujet qui intéresse les élus, c'est un sujet qui intéresse les Bruxelloises et les Bruxellois. Je pense parce que c'est quelque chose de très positif finalement. Déjà, les enfants sont au centre de cette mesure, la protection de leur santé. Et je parle de la santé, mais une rue scolaire, ça permet également de pacifier une rue. Donc il va y avoir aussi moins de stress, moins d'accidents de la route potentiellement, moins de bruit. C'est pas seulement la pollution de l'air. Et une rue qui est apaisée, c'est une rue qui est apaisée pour tout le monde, pas seulement pour les enfants. Donc ça va être aussi plus agréable pour les riverains et les riveraines, pour les gens qui passent par cette rue. Donc voilà, c'est très positif. Donc ça fonctionne assez bien. Et voilà, après il y a d'autres mesures. Par exemple, on travaille aussi sur les livraisons, ce qu'on appelle les livraisons du dernier kilomètre, c'est-à-dire le trajet du colis que vous achetez en ligne entre l'entrepôt et puis le pas de la porte. Ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que même si on est bien conscient que il y a un problème de qualité de l'air, on n'a pas nécessairement envie de moins acheter en ligne. On sait très bien que les ventes en ligne augmentent et continuent à augmenter. Donc c'est un petit peu plus difficile de convaincre les gens sur ce genre de... Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas changer, c'est juste que voilà, c'est un peu plus compliqué.
Ici, dans le Wombat Café, on essaie donc de comprendre quel est l'engagement, quel est le message politique derrière, et puis la personne aussi qui porte ce message et cette idéologie et cette idée. Toi, cet engagement que tu portes maintenant depuis plusieurs années, est-ce que tu as ressenti des changements et qu'est-ce que ça t'a apporté cet engagement?
Ben, moi, l'engagement, c'est vraiment à nouveau d'être utile, d'améliorer la qualité de vie dans la ville dans laquelle je vis, c'est-à-dire Bruxelles, ici en l'occurrence. Et je pense que c'est mon... Je suis convaincu moi-même que mon combat est légitime. Et donc voilà, c'est ce qui me donne envie de continuer, en tout cas pour le moment. Ça avance doucement, mais ça avance quand même de manière générale dans le bon sens. Donc ça me donne encore plus envie de continuer. Oui, je pense que c'est ça.
Eh bien, on arrive petit à petit vers la fin de cette interview. Mais je voulais quand même savoir, on a beaucoup parlé de la situation actuelle, de tous les soucis de santé ou organisationnels, de ce que c'est la pollution de l'air et de tout ce qui entoure la voiture. Mais toi, quel serait ton idéal ? Quelle serait pour toi cette Bruxelles idéale ?
Mais je pense que c'est une ville dans laquelle, alors, non seulement on respire mieux, mais aussi on est plus... On est plus détendu de manière générale, et donc on sait par exemple que le bruit est la première source de stress en Europe, donc entre autres à Bruxelles en ville, donc moins stressé s'il y a un petit peu moins de trafic. On sait que les plantes, les arbres apaisent aussi beaucoup les gens. Donc une ville qui est plus verte, littéralement, hein, avec vraiment des arbres et des plantes. Oui, je pense que d'un point de vue, pour faire le lien avec les chercheurs d'air et avec mon boulot, je dirais que c'est ça. Donc beaucoup moins de trafic, beaucoup plus de verdure, ça serait top.
Je pense que c'est pour ça que je voulais t'inviter dans ce podcast. Je trouve ça toujours intéressant de pouvoir amener un sujet qui est, en tout cas pour ma part, je trouve moins fort traité que d'autres. Et d'un point de vue politique, je le trouve hyper important. Il devrait être fort mis en avant parce qu'il touche à peu près tout. Et surtout des secteurs qui sont très importants comme la santé, mais comme aussi l'écologie. Et donc je pense que tout ça ensemble, c'est vraiment une mission que je trouve très importante, qu'il faut pousser, qu'il faut mettre en avant. J'espère qu'elle va être de plus en plus grande. J'espère qu'on va pouvoir toucher plus, que tu vas pouvoir toucher plus que Bruxelles, et qu'on va pouvoir avoir une Europe, si pas un monde, beaucoup plus vert, avec une mobilité beaucoup plus douce. Je vous souhaite vraiment que du succès pour la suite chez les chercheurs d'air. Est-ce que, par hasard, tu aurais une recommandation culturelle pour les auditrices et les auditeurs? Le Wombat Café, ça a commencé avec ça. On faisait à la base des recommandations culturelles. Et puis on s'est dit qu'on allait se lancer beaucoup plus dans l'engagement pur. Mais je trouve ça toujours intéressant de savoir, les invités et invités, qu'est-ce qu'ils pensent d'un point de vue recommandation culturelle? Qu'est-ce que tu voudrais recommander?
Oui, alors je peux recommander un bouquin, Les quais, ou Le quai, je ne sais plus, de Wistram, de Florence Obnas, qui traite du travail précaire, et au travers de cette thématique, il y a à plusieurs moments dans le livre, qui a été adapté aussi au cinéma il n'y a pas très longtemps, un lien avec la voiture justement, parce que y a certaines personnes, c'est le cas à Bruxelles comme dans d'autres grandes villes, qui ont besoin d'une voiture pour aller travailler. Là, dans le livre, c'est des femmes de ménage qui doivent commencer très tôt, à des moments où il n'y a pas encore les transports en commun, par exemple, qui circulent. Et donc, je crois que c'est je parle de ça parce que je pense que c'est toujours important, quand on travaille dans l'environnement et dans d'autres thématiques, de toujours garder à l'esprit que c'est aussi une question sociale et qu'il faut oublier personne, qu'il faut que les mesures qu'on demande ou qu'on mette en place soient vraiment adaptées au maximum. Je ne sais pas si c'est possible qu'elles soient adaptées à tout le monde tout le temps, mais qu'elles soient vraiment adaptées au maximum de personnes, et qu'en tout cas, elles soient bien au courant, que ces mesures prennent en compte tous les publics.
Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup pour ta disponibilité, pour ta patience aussi. On a dû plusieurs fois reporter à cause de plein de soucis différents. Mais on y est arrivé, on est dans des nouveaux bureaux. Et donc c'est aussi la suite et l'annonce que le Wombat Café s'agrandit et va être de plus en plus pro. Et j'en suis très content. Où on peut retrouver les chercheurs d'air? Sur quels réseaux sociaux? Sur quels sites? Tu as parlé du site internet, mais je pense que ça vaut la peine d'appuyer une dernière fois quels sont les réseaux sociaux. C'est toi qui as le mot de la fin.
Oui, donc on a un site internet, lescherchersd'air.be. On existe sur Facebook, Twitter, Instagram et peut-être TikTok. On va voir si on passe.
Waouh, super, très moderne, très Gen Z. J'aime beaucoup. Voilà. Ok, eh bien, allez check tout ça. Et pour le Wombat Café, vous connaissez, c'est wombatcafe.podcast@gmail.com ou le podcast du Wombat Café sur Instagram. Vous pouvez retrouver tout ça. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Entre-temps, allez dire à Pierre et à toute l'équipe, les chercheurs d'air, à quel point vous avez aimé l'interview. Et encore une fois, un grand merci, Pierre.
Merci.
Et à bientôt. Ciao.